Robert se réjouissait de voir la ligue d'Artois qu'il avait fomentée si bien prête à l'action. C'eût été sottise vraiment que de mourir le lendemain. À ce moment, un écuyer pénétra dans la tente en disant « Monseigneur Robert, les chefs de bannière sont requis séants aux trèfles du roi. » Quand d'Artois entra sans hâte chez le roi, la plupart des grands seigneurs déjà s'y trouvaient, assis en cercle pour ouïr le connétable. Beaucoup ne s'étaient lavé ni rasé depuis 6 jours. Ordinairement, ils n'auraient jamais passé tant si long sans aller aux étuves. Mais la crasse faisait partie de la guerre. Lassé de devoir répéter les mêmes évidences, Gaucher de Châtillon fut bref et presque impertinent à l'égard du souverain. Ce roitelet décidément ne lui convenait guère, qui tranchait seul sur les sujets qui eussent mérité conseil et tenait assemblée lorsqu'il eût dû ordonner. Gaucher avait été habitué à d'autres méthodes où le commandement des troupes ne constituait pas matière à délibérer. Étalant sa cotte de soie bleue sur ses genoux, Valois commença de pérorer. « Il est vrai, sire mon neveu, comme Gaucher vient de le confirmer, qu'on ne peut davantage rester en ce lieu où tout s'abîme à la fois, l'âme des hommes et le poil des chevaux. L'inaction nous gâche autant que la pluie. » Il s'interrompit parce que le roi s'était retourné et parlait à Mathieu de Try, son chambellan. Le hutin réclamait seulement qu'on lui passât son drageoir. Les difficultés lui inspiraient le besoin de sucer ou de croquer quelques sucreries.
« Poursuivez, mon oncle. Je vous prie, » dit-il.
« Il faut déloger demain tôt le matin, » reprit Valois. « Trouver un passage à la rivière en amont et courir sus aux flamands pour les culbuter avant le soir. » « Avec des hommes sans vivres, des montures sans fourrage, » dit le connétable. « La victoire leur remplira le ventre. Ils peuvent tenir encore une journée. C'est le jour d'après qu'il sera trop tard. Et moi, je vous réponds que vous allez vous faire tailler ou vous faire noyer. Il faut, si vous m'en croyez, retirer l'armée sur une hauteur vers Tournai ou Saint-Amand, laisser les viandes nous parvenir, les eaux s'écouler. « On voit bien, cousin, » dit Valois, « que vous touchez 100 livres la journée quand le roi chevauche avec Lost, et que vous vous souciez peu de voir finir la guerre. » Le ton voulait être celui de la boutade, mais le connétable blessé au vif répliqua « Je suis au devoir de vous rappeler, cousin, que même le roi ne peut marcher sus à l'ennemi sans que le connétable en ait donné l'ordre. Et cet ordre, en l'état présent, je ne le donnerai point. Ce faisant, le roi peut toujours changer de connétable. » Un pénible silence s'ensuivit. L'affaire prenait un mauvais tour. Pour complaire à Valois, Louis X allait-il révoquer le chef des armées, comme il avait destitué Marigny et tous les légistes de Philippe le Bel? Le comte de Poitiers immédiatement intervint. « Mon frère, je partage entièrement le conseil de Gaucher. Nos troupes ne sont point en mesure de combattre sans s'être restaurées une bonne semaine. » « C'est aussi mon avis, » dit le comte Louis d'Evreux.
« Alors, on ne châtiera donc jamais ces flamands ?»
s'écria Charles de la Marche, qui se plaisait à copier Valois. Le connétable eut pour le plus jeune frère du roi un regard de mépris. L'oison, comme l'appelait sa propre mère la reine Jeanne, avait parlé. Sur quoi le comte de Champagne annonça qu'il s'en irait si on ne livrait pas bataille le lendemain. Ses chevaliers s'agitaient trop et de toute manière, il ne les avait levés que pour 2 semaines. Valois écarta ses mains chargées de bagues comme pour dire « Vous voyez ». Mais il semblait déjà moins convaincu et seul l'amour-propre l'empêchait de revenir sur ses opinions belliqueuses.
« Retraite ou défaite, sire, voilà le choix, » dit Gaucher.
Le roi ne donnait pas toujours signe de savoir à quelle partie se résoudre. Toute cette équipée ne faisait de sens pour lui que rapidement mener. Prendre la décision de la sagesse, se regrouper ailleurs, attendre, c'était repousser d'autant l'heure de son mariage et obérer un peu plus ses finances. Quant à prétendre franchir une rivière en crue et charger au galop dans la boue, au vrai, il avait pensé qu'il ne serait pas obligé de charger et que les flamands céderaient devant le seul déploiement d'un host si formidable. Robert d'Artois, qui se tenait assis derrière Valois, se pencha vers celui-ci et lui murmura quelques mots. Valois approuva de la tête d'un air indifférent. Qu'on fît ce qu'on voudrait, il se retirait du débat. Robert, alors, se leva et s'avança de 3 pas pour mieux dominer l'assemblée.
« Sire, mon cousin, » dit-il, « je devine votre souci. Vous n'avez point assez de moyens d'argent pour maintenir ce grand toast à ne rien faire. En outre, votre nouvelle épouse vous attend, que nous avons tous hâte à voir reine, comme nous avons hâte à vous voir sacrée. »
Mon conseil est qu'il ne faut point s'obstiner. Ce n'est pas l'ennemi qui nous oblige à rebrousser. C'est cette pluie où je vois la volonté de Dieu devant laquelle tout un chacun, si puissant qu'il soit, doit s'incliner. Notre Seigneur, sans doute, vous signifie ainsi de ne pas combattre avant d'avoir été oint des saintes huiles. Vous tirerez autant de gloire, mon cousin, d'un beau sacre que d'une bataille aventureuse. Renoncez donc pour le moment à châtier ces mauvais flamands. Et si la peur que vous leur avez inspirée ne suffit point, revenons en même nombre au prochain printemps. » Dans l'embarras où l'on piétinait, cette solution radicale, celle du renoncement, proposée par un homme dont on ne pouvait suspecter le courage aux armes, reçut l'assentiment d'une grande partie des barons, et tout d'abord celui du roi. Montrant une fois de plus son manque de pondération, Louis X se rua avec empressement et reconnaissance dans l'échappée que d'Artois lui découvrait.
« Mon cousin, vous avez parlé sagement, déclara-t-il. Le ciel nous manifeste son avertissement, que l'armée reparte donc, puisqu'elle ne peut poursuivre. »
Puis, enflant la voix pour se donner de la majesté, il ajouta
« Mais je jure Dieu que si je suis encore en ville l'an prochain, j'irai envahir les flamands et n'aurai avec eux nulle accordance, qu'ils ne s'abandonnent en tout à ma volonté. »
Il n'eut plus alors d'autre souci que de déloger. Il fallut au connétable et à Philippe de Poitiers beaucoup d'insistance pour le convaincre de mesures indispensables, comme de maintenir au moins quelques garnisons le long de la frontière de Flandre. Il ne les entendait plus, il était déjà parti. Dans cette dispersion, Valois trouvait son compte. Il avait maintenu à peu de frais sa réputation héroïque. D'Artois y trouvait le sien, mieux encore. La guerre manquée profitait à sa ligue. Telle était la hâte du roi qu'elle se fit contagieuse et que le lendemain matin, faute de charroi et de pouvoir extraire de la boue tout le matériel, on mit le feu aux tentes, aux meubles, à l'équipement. L'appétit de destruction se soulageait ainsi. Laissant derrière elle, sur de vastes espaces, des embrasements fumeux qui luttaient contre l'éternelle pluie, l'armée, fourbue et affamée, se présenta au soir devant Tournai. Les habitants effrayés fermèrent les portes de la ville. On n'exigea pas qu'ils les ouvrissent. Le roi alla demander asile dans un monastère. Le surlendemain, 7 août, il était à Soissons, d'où il signa les ordonnances qui mettaient fin à la campagne. Il chargea Valois des préparatifs du sacre et envoya Philippe de Poitiers à Saint-Denis afin d'y rendre l'oriflamme et d'y prendre l'épée et la couronne. Les princes se retrouveraient entre Reims et Troyes pour se porter au-devant de Clémence de Hongrie. 14 jours avaient suffi à Louis Hutin pour déposer dans la corbeille de ses secondes noces l'inoubliable ridicule de l'expédition par lui conduite et qu'on ne désignait déjà plus que sous le nom d'Ostebourg.